Ce soir, c'est le chiffre heureux du jour, 9%, le chômage qui repasse sous la barre des 9% au quatrième trimestre selon l'INSEE. Alors c'est vrai que depuis quelques mois, on voyait la croissance repartir, hein, mais le taux de chômage apparemment n'en profitait pas. Apparemment, on y est. Il y a une autre question qui va se poser justement, puisque plusieurs secteurs de l'économie connaissent des pénuries de main-d'œuvre pour recruter notamment, par exemple, des cadres, justement. Alors, certains vont-ils faire monter les enchères? Comment les entreprises pourront-elles répondre ou pas à la demande? Alors, baisse du chômage, les salaires vont-ils suivre? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Oui, on va en parler ce soir avec nos décodeurs de l'écho. Il y a Jean-Marie Marx, directeur général de l'APEC, avec nous également. Je voulais qu'un industriel soit avec nous. Émeric Le Châtelier, vice-président de Ipsen, laboratoire pharmaceutique, qui annonçait ce matin de très beaux résultats des ventes en hausse de plus de 20%, 1,9 milliard d'euros. Avant une nouvelle année exceptionnelle, l'année 2018, évidemment, il faudra confirmer tout ça. Gilles Lecointre, il est économiste, auteur de Théorie générale du capital, de la croissance et de l'emploi, prix spécial 2017 de l'Académie des sciences morales et politiques. Emmanuel Le Chypre, éditorialiste économique à BFM Business. Et puis Luc Berry, secrétaire général de l'UNSA. Alors, je vous rappelle les chiffres qui sont tombés ce matin, que vous aviez découvert avec Stéphane Soubier et Emmanuel Le Chypre, donc de Good Morning Business. Selon l'INSEE, le taux de chômage a baissé de 0,7 points au cours des trois derniers mois de 2017, 8,6% en métropole, 8,9% si on intègre les départements d'outre-mer, sont comptabilisés par l'INSEE. 2 500 000 chômeurs en France métropolitaine. Ce sont donc des chiffres trimestriels. Emmanuel Le Chypre, on y revient d'un mot quand même. C'était une surprise? Ils sont justes? Ils sont exagérés ces chiffres ou pas?
Alors, d'abord, oui, c'est une surprise parce qu'effectivement, on s'attendait pas à une baisse aussi forte. Hein, 0,7 points, il faut remonter. Même au cours des derniers trimestres où on avait eu la dernière vraie baisse du chômage, c'est-à-dire sur la période 2006-2007, où notamment il y avait eu les réformes faites par Jean-Louis Borloo avec les emplois de service, etc. On avait eu des baisses de 0,5 par trimestre, qui étaient déjà des baisses importantes, mais 0,7, ça fait effectivement très longtemps. Alors, c'est d'autant plus étonnant qu'il y avait des vents contraires hein, qui semblaient quand même souffler et que d'ailleurs l'INSEE avait très bien identifié en ayant une prévision prudente pour le chômage, puisqu'il faut rappeler que l'INSEE prévoyait pour le mois de juin 2018 un taux de chômage assez nettement supérieur à celui-là, 9,3, 9,4. Et donc, on se disait, alors effectivement, il y avait la fin de la prime à l'embauche dans les PME au mois de juin, donc on se disait, bah il va y avoir un contre-coup, forcément. Il y avait la suppression des contrats aidés, où on s'est dit, là encore, c'est quand même plusieurs dizaines de milliers de gens
qui vont se retrouver
sur le marché du travail. Il y avait l'effet classique des demandeurs d'emploi qui retrouvent un peu d'optimisme et qui se réinscrivent au chômage. Et donc, c'est vrai qu'on est surpris. C'est vrai que si on met tout ensemble, c'est-à-dire ce que nous dit l'enquête sur les besoins de main-d'œuvre des entreprises, ce que nous disent les chiffres de création d'emplois et ce que nous disent les chiffres de baisse du chômage, tout ne boucle pas. Donc, en même temps, on est habitué à ce qu'il y ait des révisions de chiffres.
Il y aura révision là ou pas
du chômage. Ouais. Il y aura certainement révision, mais on avait déjà un trimestre précédent qui était un peu compliqué. Pour vous donner un ordre d'idée, les créations d'emplois, elles sont de 50 000 au troisième trimestre et à peu près d'autant au quatrième trimestre. Au troisième trimestre, vous avez 62 000 chômeurs de plus. Au quatrième, vous en avez 200 000 de moins. Ouais. Voilà. Donc là,
ces chiffres, ils se traduisent comment? Ils s'expliquent comment alors?
Donc il y a des choses qui se sont passées du côté de la population active, par exemple, c'est-à-dire que en fin d'année, il y a beaucoup moins de gens qui sont venus sur le marché du travail que ce qui était sans doute anticipé. Il y a l'effet croissance, il y a l'effet aussi intensité en emploi des secteurs qui vont bien. Hein. C'est-à-dire que quand un secteur comme le BTP, la construction va bien, bah, c'est des secteurs qui sont très consommateurs de main-d'œuvre. Donc ça joue beaucoup. Et puis il y a sans doute aussi au moins psychologiquement un effet de la réforme du marché du travail, c'est-à-dire que les patrons se disent quoi qu'il arrive, de toute façon, ça va devenir plus simple de
licencier. Bon, on verra justement pour aller
et d'embaucher. Et puis peut-être que quand il y a des pénuries de main d'œuvre, et ben les patrons, ils sont moins regardants quand ils ont des candidats et qu'ils se disent bon bah finalement celui-là il est pas mal.
C'est pas
l'idéal, mais bon si plutôt que de trouver personne,
de risquer de trouver personne,
c'est un peu l'effet quand vous faites le plein de sucre et de packs d'eau quand vous il y a des grèves ou et que vous craignez une pénurie.
Voilà. dites-moi quand même, Gilles Lecointre, c'est vrai, on s'interroge souvent sur le décalage entre la remontée de la croissance et la création de postes, et puis le chômage. Bah, ces dernières semaines, ces derniers mois, enfin en tout cas c'est ce que nous disait Pôle emploi, qui continue de monter. Là, la tendance, elle est vraiment inversée cette fois. On peut faire vraiment une corrélation entre hausse de la croissance et baisse du chômage?
Non, enfin, bien sûr que la croissance entraîne la diminution du chômage, mais il faut un certain type de croissance et que ça dure un certain temps. Donc le chiffre est assez soudain. Moi, je donnerai un chiffre, pour moi, le chiffre le plus important qui a été effleuré par Emmanuel, c'est le nombre de créations nettes d'emplois, qui est 253 000. Et je vais vous donner un scoop. On a fait exactement le même chiffre en 1997 avec exactement le même taux de croissance de 1,9%. Oui. Donc il y a bien une corrélation entre nous. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le chômage s'explique aussi par l'effet du solde migratoire. C'est que les seniors sortent et les jeunes rentrent. Et j'ai vu une étude qui disait qu'il y avait en gros un solde de 150 000 à partir duquel on peut créer de l'emploi. C'est pour ça qu'il faut au moins 150 000, ça veut dire qu'il faut au moins 150 000 nouveaux emplois pour commencer à résorber le chômage.
Et quel taux de croissance on voit baisser le chômage? On dit en général 2%,
je crois
on y est là.
On ne peut pas dire les choses. La preuve en est, c'est qu'avec une croissance qui reste quand même relativement modeste, on arrive à faire baisser le chômage. Donc je crois que tout ce qui a été écrit là-dessus est un peu, non pas du et non avenu, mais critiquable, parce qu'on n'a pas de modèle qui démontre vraiment la chose. Ce qui est sûr, c'est que plus il y a de croissance, plus il y a d'emplois, il faut pallier le déficit de l'arrivée des jeunes contre le départ des seniors, et à partir de là, on crée de l'emploi.
En tout cas, ce que vous dites, la croissance n'est pas le joker gagnant, hein, selon les stratégies, l'impact sur l'emploi n'est pas le même, ce que vous expliquez très très bien, Gilles Lecointre, dans votre livre. Tiens, Émeric Le Chatelier, vice-président d'Ipsen, laboratoire pharmaceutique, cette croissance, vous la sentez justement, vous misez sur elle, vous embauchez justement?
Alors effectivement, la croissance, je vais rebondir un peu sur ce qui a été dit. Je crois que l'environnement aujourd'hui dans lequel on est, qui est un environnement comme global, qui est très favorable, et on voit que les niveaux de l'emploi dans beaucoup de pays, si on prend les États-Unis, si on prend l'Allemagne, si on prend d'autres pays européens, contribuent aujourd'hui. Et nous, aujourd'hui, Ipsen, on est effectivement une entreprise, on est présente partout dans le monde. On fait 15% de notre chiffre d'affaires en France, mais on fait énormément aux États-Unis, en Asie, dans tous les pays d'Europe. Le contexte général est un contexte de croissance. Et nous, on bénéficie aujourd'hui, effectivement, d'une forte croissance et on augmente nos effectifs. Aujourd'hui, on a embauché pratiquement 1500 personnes en 2017. En 2018, on va continuer.
Ici en France?
Alors, on les embauche un peu partout. On a à peu près un tiers de nos effectifs en France. Et donc, c'est ça l'avantage d'être une société française qui a des succès à l'international. Et aujourd'hui, un tiers de nos effectifs en France, 15% de notre activité en France. Et on embauche pratiquement un quart des 1500 personnes, on les a embauchées en France. C'est une vraie guerre des talents d'embaucher les gens, de trouver les compétences dans notre industrie, en particulier où l'innovation est à peu près est absolument essentielle. Et donc il y a une vraie compétition. Mais je crois beaucoup que l'environnement général de croissance est aussi quelque chose qui est très favorable. On ne peut pas penser qu'aujourd'hui la France est isolée dans une économie qui est connectée, qui échange. Et on bénéficie effectivement tous aujourd'hui. Et en plus, particulièrement en France, je crois qu'il y a aussi un climat de confiance. Je crois que c'est un autre élément, on y reviendra probablement, qui est important. Et la vision des investisseurs dans les différents pays, moi j'ai l'occasion de voyager beaucoup, est très importante.
Ouais, alors est-ce que justement certains vont en profiter? Justement, les cadres vont-ils en profiter? Jean-Marie Marx, directeur général de l'APEC. Alors vous, le taux de chômage de 9%, vous en êtes loin hein, chez les cadres.
Une situation en dessous de 4 points.
De plein emploi, en dessous de 4 points, 3,5%. L'emploi des cadres qui ne s'est jamais aussi bien porté. Et dans votre dernière livraison, donc sortie hier, hein, entre 248 000 et 271 000 recrutements de cadres attendus en 2018, justement. Et vous tablez sur une croissance pérenne, hein, voilà. Et ça va continuer, vous, en 2018. Hein.
Oui, on est à plus 13% de prévision d'intention de recrutement de cadres en 2018. Donc c'est un bon chiffre, hein, 270 000 au plus haut. Déjà 240 000 en 2017, ce qui fait quasiment de l'ordre de 100 000 recrutements en plus par rapport à 2009, par rapport à la crise. Donc une forte croissance, solide également et durable sur les années qui viennent, puisque nous avons un modèle économétrique qui nous permet de prévoir à ce haut niveau sur plusieurs années. Alors je crois qu'il y a quatre raisons à cette évolution de la situation du marché du cadre. La première, c'est ce qui a été évoqué. Alors, la croissance, mais j'allais dire plus le contenu en emploi de la croissance. Et pour ce qui est des cadres, c'est de l'ordre de 50 000 emplois de cadres qui ont été créés en 2017, sur les 250 000 qu'annonce l'INSEE en 2017. Donc, on va être dans ce mouvement. Et bien évidemment, lorsqu'il se crée de l'emploi, il y a de l'emploi de cadres. La deuxième raison, c'est l'investissement des entreprises. Lorsque l'investissement reprend, il y a des besoins de compétences nouvelles, de compétences d'ingénieurs, dans le domaine de la recherche, du développement, de l'innovation. Et il y aura donc besoin effectivement de cadres. La troisième raison, ce sont les nouveaux profils qui sont demandés pour les cadres, et notamment donc en matière de management. Bien sûr, il y a toujours besoin d'expertise, mais beaucoup de transversalité, de conduite en mode projet. 60% des managers sont en mode projet, même si c'est pas le mode de management exclusif, mais c'est important. Donc ces nouveaux profils sont aujourd'hui sollicités par les entreprises. Et la quatrième raison, c'est que lorsque ça va mieux, il y a plus de mobilité des cadres et plus de mobilité externe. Lorsque on a une situation économique moins bonne, on est autour de 6% de cadres qui bougent d'entreprise. Lorsque cela va mieux, on est plutôt autour de 10% de cadres qui bougent d'entreprise.
Et on verra justement que le rapport de force est évidemment inversé, parce que ces cadres vont peu probablement faire monter les enchères. On y reviendra. Luc Berry, chiffre heureux quand même, le chiffre annoncé par l'INSEE. Vous y croyez? C'est bon? L'inversion est là?
Écoutez, on a suffisamment de mauvaises nouvelles d'habitude pour se réjouir de ce qui est une bonne nouvelle. Après, je partage un peu les interrogations qui ont été mises ici. Est-ce que c'est un chiffre, entre guillemets, assez exceptionnel? La suite nous le dira. La tendance générale à la reprise de l'activité, tout le monde la sent. Les effets sur l'emploi, là, on a donc des éléments positifs. Donc, moi, tout ce qui est positif, je prends. Mais je suis plus interrogatif pour savoir si, effectivement, cette croissance, cette reprise de l'activité qu'on revoit, dont je pense que on peut estimer qu'elle n'est pas une simple construction, mais enfin une réalité. À qui va-t-elle profiter? Et sur le terrain de l'emploi, on voit bien comment il y a plusieurs sujets qui se trouvent posés aujourd'hui. Ça a été évoqué, un sujet de qualification, de formation qui est fondamental, et qui est fondamental en particulier pour deux catégories de la population qui est en manque d'emploi, qui sont une partie des jeunes, et une large partie aussi, évidemment, des chômeurs de longue durée. Parce que ceux-là et celles-là, est-ce que la croissance va leur profiter? À quel niveau, effectivement, est-ce qu'on va retrouver une possibilité de rentrer dans l'activité? Ça, c'est le vrai sujet, je pense.
Même si on
plus
appelle
les questions quand même de qualité de l'emploi, parce que j'insiste à ce sujet-là.
On reviendra à ce que disait Jean-Marc.
À voir. Effectivement, il y a un certain nombre de secteurs où on sent bien une forte demande d'emplois qualifiés qui correspond à cette reprise d'activité et à des développements de marché. Mais il y a aussi toute une série d'endroits dans lesquels on peut s'interroger pour savoir si le cycle qu'on a connu quand même, qui est assez long, de recours à une qualité d'emploi très dégradée, va continuer ou pas. Et ça, c'est aussi une question qui se trouve posée, je pense, dans cette situation.
Le taux de chômage des jeunes est en recul, même si, en effet, on n'arrive pas à descendre sous les 20%, cette barre symbolique pour les jeunes. Juste sur la méthode, simplement, puisqu'on parle du chiffre de l'INSEE, c'est vrai que le gouvernement avait décidé de miser sur les chiffres trimestriels et en laissant de côté le chiffre mensuel de Pôle emploi à la fin de chaque mois jusqu'à présent. C'est-à-dire, le chiffre de Pôle emploi, il est démonétisé, il était trop volatile. Je tiens un mot, Gilles Lecointre.
Je voulais simplement dire que pour relativiser ce chiffre qu'il faut prendre avec beaucoup de précautions, mais qui est positif, et en économie, la confiance est fondamentale. Macron est en train de le démontrer, à mon avis, de façon remarquable. Donc, sur un an, parce que moi j'aime bien travailler sur le long terme, et un an c'est quand même pas du long terme, le chômage n'a baissé que de 0,5% en nombre absolu. Donc il faut relativiser tout ça pour pas partir encore sur des choses qui vont être déceptives après coup.
Sur la méthode, le chiffre de Pôle emploi, il valait plus rien?
Non, le chiffre de Pôle emploi, il dit, on lui a fait abusivement dire qu'on parlait des chômeurs, alors qu'on parle des demandeurs d'emploi. Et que à Pôle emploi, vous avez des gens qui sont inscrits, mais vous avez Pôle emploi enregistre tout un tas d'autres phénomènes d'aller et venu. Vous avez des gens qui rentrent en stage, qui en sortent. Vous avez des gens qui ont travaillé quelques heures, d'autres quelques dizaines d'heures. Vous avez des gens qui viennent après des fins de stage, des gens qui s'en vont parce qu'ils ont trouvé... Donc, Pôle emploi, c'est juste le pouls un petit peu de la vie, du recrutement, des entrées et sorties sur le marché du travail. C'est pas le taux de chômage. D'ailleurs, il y a c'est pas la même statistique, c'est pas le même périmètre. Et donc, vous ne pouvez pas comparer.
Le taux de l'INSEE,
L'avantage du taux de l'INSEE, c'est que c'est la norme internationale, c'est-à-dire qu'on considère comme chômeur des personnes qui n'ont absolument pas travaillé, qui sont immédiatement disponibles pour trouver du travail. Et ça, c'est la définition internationale. Alors, c'est un peu trompeur aussi, parce que c'est vrai que quand on considère que si vous avez travaillé quelques heures par semaine, vous n'êtes pas chômeur, honnêtement, c'est pas la même qualité d'emploi que quand vous bossez 35 ou 40 heures. Donc ça, ça pose des problèmes par rapport à l'interprétation qu'on peut faire de la pénurie ou pas de main-d'œuvre dans certains secteurs. Mais grosso modo, c'est deux choses comparables.
En tout cas, voilà, c'est celui qui va faire référence. Jean-Marie Marx, directeur général de l'APEC.
Oui, je voulais simplement partager cette publication trimestrielle, les chiffres du chômage. Je crois que c'est important. La question se posait depuis plusieurs années en matière de politique de l'emploi et de suivi du marché du travail. Donc je crois que c'est une bonne chose que ce commentaire trimestriel des chiffres de l'emploi. Deuxième élément, c'est que je partage tout à fait ce que vient de dire Emmanuel Lechypre. Les inscriptions à l'ANPE, ce sont des inscriptions administratives et qui mesurent aussi des phénomènes importants. Lorsque l'économie va mieux, il y a plutôt une tendance à se porter sur le marché du travail. Lorsque ça va moins bien, on se retire souvent du marché du travail, plus d'autres phénomènes liés à la politique interne de Pôle emploi. Donc je crois que la publication du chiffre de l'INSEE, les chiffres du BIT, sont une bonne chose.
Et ça, on le sait, on peut le mesurer, ce phénomène de gens qui reviennent sur le marché du travail, parce qu'on a une statistique qui sont les inactifs disponibles, en gros, et qui ne cherchent pas d'emploi, donc qui sont découragés. Et en 2017, ce nombre a baissé de 40 000 personnes. Donc on sait qu'il y a 40 000 personnes qui se sont dit, bah tiens, je vais me réinscrire à Pôle emploi, ou parce que j'ai peut-être des chances de retrouver du travail.
Et hier, on parlait d'un taux de chômage qui resterait fixé à 9%, une sorte de taux incompressible.
C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron, qui avait pointé les risques d'un chômage structurel, quelque part incompressible. Un vrai scandale, disait-il. Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'il faut en penser à l'aune de la révélation de ce chiffre de l'INSEE? Gilles Lecointre, Emmanuel Lechypre ou Luc Berry, justement.
La Commission européenne et l'OCDE nous disent que le taux de chômage structurel en France, c'est 9,2%. On est là a priori en dessous. Bon, honnêtement, c'est un chiffre. C'est pas un chiffre. Faut bien savoir que ce chômage structurel, c'est pas un chiffre qu'on observe. C'est un chiffre qu'on calcule. C'est un peu le même problème que la croissance potentielle. C'est du calcul.
C'est comme le 3% de déficit.
Voilà. Donc du coup, on voit bien que il y a des tas de phénomènes qui sont peut-être pas pris en compte. Ce sous-emploi qui vient du fait que il y a des gens qui travaillent très peu d'heures. La concurrence, l'innovation, la digitalisation, etc. Le fait qu'il y ait un lien qui soit de plus en plus lâche entre les salaires et le niveau de chômage, etc. fait qu'on est sans doute en dessous de ce niveau. D'ailleurs, aux États-Unis, Janet Yellen, qui était quand même une spécialiste du marché du travail, elle a laissé finalement baisser le taux de chômage bien en dessous de ce qu'était l'estimation du taux structurel, et ça n'a pas relancé l'inflation plus que ça. Donc ça, c'est des chiffres qu'il faut prendre avec précaution.
Oui, et ça descend jusqu'où? Parce que le gouvernement mis sur un taux de 7% à la fin du quinquennat, jusqu'où peut descendre justement ce taux de chômage?
Il n'y a pas de limite, encore une fois. La création d'emplois, c'est la transformation de l'innovation en emploi. Et c'est l'innovation, il n'y a pas de limite, en tout cas calculable aujourd'hui. Donc cette histoire de friction, de chômage structurel, à mon avis, c'est un concept un peu vaseux.
Aymeric Le Châtelier, Ipsen.
Oui, je crois qu'il y a beaucoup de débats sur les chiffres, les statistiques. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est le climat de confiance et ce qui change aujourd'hui. Je crois qu'effectivement, on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est des mesures données qui, en quelques mois, peuvent changer. Le débat sur les chiffres, il y a beaucoup de débats. Moi, je crois que ce qui est important, c'est que pour entreprendre, pour embaucher, pour croire au futur, il faut qu'il y ait un climat de confiance. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui change assez fondamentalement, aujourd'hui en France, c'est qu'il y a cette envie d'investir. Nous, aujourd'hui, chez Ipsen, nous, on investit. On a augmenté 30 à 40% aujourd'hui nos investissements industriels en France.
Et vous disposez d'un milliard d'euros pour investir, pour procéder éventuellement à des acquisitions, hein. Ce que vous expliquiez ce matin à l'aune de vos résultats.
Oui, tout à fait. On a non seulement effectivement une forte croissance aujourd'hui, mais en plus on veut continuer à investir. On a effectivement près d'un milliard pour continuer à croître, développer aussi tout ce qui est la biotech en France. Je crois qu'il y a un gisement, parce qu'on parlait beaucoup de l'innovation et vous en parlez. Je crois qu'il y a la Banque publique d'investissement qui essaye d'aider. Et aujourd'hui, on a besoin et on peut faire beaucoup plus. Et je crois beaucoup effectivement à l'idée de dire qu'il n'y a pas de limite au chômage.
Sauf.
Mais il y a une transformation de la société qu'il faut prendre en compte.
Sauf. Alors Emmanuel et Luc Berry.
Sauf qu'il faut pas se leurrer, c'est que cet effet confiance, il a un revers. qui va être un effet défiance.
Oui, bien sûr.
Parce que là, ce qu'on voit, c'est quoi? Ce qu'on voit, c'est que on est dans un moment, et on a connu des moments historiquement comme ça, où vous voyez quoi? Vous voyez le taux de chômage qui baisse, la croissance qui repart, les entreprises qui font des profits faramineux, le taux de chômage qui effectivement diminue, les salaires qui n'augmentent pas. Et il y a un moment où le corps social qui devient plus confiant, effectivement, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la colère l'emporte finalement sur la peur, ce qui avait été le cas. Quand vous n'avez plus peur d'être au chômage, etc. Et on voit que c'est souvent là qu'il y a des mouvements sociaux importants. Et Dieu sait si par ailleurs, dans d'autres secteurs, et hop, je transmets à Luc Berry, si dans d'autres secteurs, il y a quand même des frustrations. Et donc, vous avez quand même un petit cocktail qui est en train de se mettre en place et qui peut être
c'est
un peu
explosif. C'est pas forcément une bonne nouvelle pour Macron, finalement, ce bon chiffre.
Je pense qu'on rentre dans une période qui peut être beaucoup moins facile qu'on le croit à gérer sur le plan social.
Luc Berry, secrétaire général de l'UNSA.
Oui,
enfin, il prépare des choses ou pas?
Oh, il se prépare des choses, on verra bien. Moi, je suis pas un gréviculteur, je ne sais trop quoi. Moi, ce que je constate simplement, c'est qu'il se passe des choses dont on vient de parler au niveau économique, mais il y a quand même un fond de la société française qui reste là, une société extrêmement clivée, avec de très fortes disparité sociale et un problème d'hétérogénéité qui menace la cohésion sociale. On vient quand même de là. Alors, je sais qu'en économie, comme en règle générale dans l'activité humaine, la psychologie, c'est extrêmement important. Mais il y a quand même quelques réalités qui sont des réalités sociales bien enfoncées dans le pays. Et tout l'objet, justement, c'est de savoir comment, dans cette situation économique qui va mieux, comment est-ce qu'on va effectivement reconstituer, retisser, recoudre un tissu social qui est quand même très très largement délité. Et ça, c'est un sujet qui est un sujet politique de fond, mais c'est un sujet social extrêmement important. Et je le dis parce que ça ne se réduit pas simplement, même si ça existe, à un certain nombre de salariés qui parfois ont le sentiment que dans la période difficile de la crise, ils se sont serrés la ceinture et que maintenant que les choses mieux, il y a un juste retour des choses qui doit advenir. Ce qu'on vient de voir, par exemple, en Allemagne assez récemment et qu'on commence à voir dans quelques entreprises en France. Mais toutes celles et tous ceux dont je parlais qui sont les exclus massifs quand même. Quand on parle du chômage de longue durée, on ne parle pas de rien quand même. C'est quand même presque, c'est de l'ordre de 36% quand même des chômeurs qui sont des chômeurs de longue durée. Et on sent bien qu'on a aussi au niveau régional dans le pays de très très fortes disparités. Donc si on veut gouverner un pays, il faut prendre l'ensemble des questions. Et moi, syndicalement, je suis soucieux évidemment de l'ensemble de ces sujets-là.
Oui, Jean-Marie Marx, directeur général de l'Association pour l'emploi des cadres, l'APEC, justement. Le chômage baisse, c'est le moment de récompenser ceux qui ont patienté, entre guillemets.
Oui, je voudrais juste
répondre. Non, si vous répondez permettez à la question, et puis après, parce que là, le temps passe, hein. Allez-y.
Oui, alors, nous, ce qu'on constate dans les chiffres sur l'évolution des rémunérations, d'abord, on va prendre les chiffres de l'UNEDIC, tout simplement, 1,7% en 2017, 1,3% en 2016, des perspectives autour de 1,7, 1,8. Bon, d'autres instituts vont un petit peu plus loin, au-delà des 2%. Mais on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, on mesure dans l'évolution des rémunérations l'impact de la situation économique. Ça, c'est évident. Donc, il n'y a pas de signaux. Alors, je crois qu'il faut faire attention aussi à une analyse trop généraliste en la matière. Il est sûr qu'il y a des secteurs d'activité ou des postes, des fonctions précises où il y a pénurie. Et là, bien évidemment, les rémunérations vont augmenter. La pression va être forte. J'étais l'autre jour avec un chef
d'entreprise. Où est-ce qu'il y a des pénuries, par exemple?
J'étais l'autre jour avec un chef d'entreprise, juste pour citer cet exemple, dans le domaine de l'audit, de l'expertise comptable, à Angers, avec une croissance importante de l'ordre de 10% d'effectifs supplémentaires tous les ans. Puisqu'il m'a dit, je vais augmenter de 8% la rémunération de mes collaborateurs cette année pour pouvoir les garder, d'autre part, attirer. Donc la question, elle se pose sur certains métiers, dans certains bassins d'emploi, parce qu'il y a un phénomène de concentration aussi de l'emploi des cadres en région Île-de-France notamment, et des régions dans lesquelles, effectivement, cet effort interviendra.
Tout juste, vous, par exemple, il y a des domaines, des métiers où vous avez du mal à recruter dans le laboratoire pharmaceutique Ipsen, Émeric Le Châtelier.
Tout à fait. Alors nous, j'allais même un peu rebondir sur la problématique salariale, parce que c'est une problématique importante. C'est à la fois une problématique, pour moi, de partage de la croissance de l'entreprise. Et nous, aujourd'hui, on travaille beaucoup, et je pense que intéressement, participation, association au capital aussi de l'entreprise. Après, l'autre volet, c'est un volet, pour moi, compétitivité. Nous, on se développe beaucoup en oncologie. En oncologie, aujourd'hui, le marché, il est mondial. Donc, comment on attire les chercheurs, comment on attire les gens dans nos laboratoires, dans nos centres de recherche, comment on attire dans nos usines les personnes qui ont les compétences. Et oui, on est sur un marché qui est un marché global.
Alors comment on fait justement pour attirer les salaires, c'est une donnée importante,
hein? Les salaires sont évidemment une donnée importante. Je crois que la vision de l'entreprise aussi, et c'est pour ça que les résultats qu'on a annoncés ce matin sont importants, la pérennité. Je crois que ce qui est important aussi, c'est de croire dans l'entreprise, c'est de prendre en compte aussi le fait qu'on a aujourd'hui une population qui évolue beaucoup, qui recherche plus la même chose que ce qu'ils cherchaient pendant longtemps. Ils savent qu'ils passeront pas 20 ans de leur vie professionnelle dans la même entreprise. On voit des gens qui viennent de petites structures, nous on voit des gens qui viennent de grands groupes, qui cherchent aussi chez Ipsen un esprit où on est une grosse PME, hein, on fait moins de 2 milliards de chiffre d'affaires. Et je crois que ça c'est important. Mais je suis pas si inquiet que ça sur le fait que le retour de la croissance, un impact à un moment donné sur le chômage, ça soit un vrai problème. Je pense que c'est au contraire quelque chose qui est une vraie opportunité pour tout le monde. Nous, chez Ipsen, très clairement, le grand enjeu, c'est comment partager notre croissance, comment mieux développer. Je crois que le gouvernement y travaille, les outils à la disposition de l'entreprise.
Mais vous nous dites, donc, il y a une croissance, on embauche, il y a quelques pénuries dans certains secteurs. Est-ce que, comme le disait tout à l'heure, par exemple, Emmanuel Le Chypre en préambule, est-ce que parfois on se montre un petit peu moins exigeant dans le recrutement? Parce que voilà, tout de suite, accaparé, eh bien, un homme, une femme qui est là, justement, de peur qu'il s'en aille ailleurs et de ne pas retrouver quelque part un salarié, un collaborateur.
Bien sûr,
ça arrive.
La rétention de nos employés qui sont absolument critiques dans un certain nombre de compétences, c'est très important. Par contre, nous, dans notre domaine, hein, l'industrie pharmaceutique, c'est très important d'avoir les bonnes compétences. Donc, on va pas sacrifier aujourd'hui. Donc, tous les débats sur la qualification, la formation, c'est un énorme sujet pour nous. Par contre, évidemment que tous les jours, on a ce type de discussion. Comment on garde les personnels clés de l'entreprise chez nous.
Jean-Marie Marx, juste un mot, parfois, justement, on est moins exigeant ou pas dans le recrutement?
On est moins exigeant, en tout cas, il faudra changer la donne. Elle change actuellement pour les recruteurs. Les intentions de recrutement, par exemple, pour les cadres des recruteurs, donc se situent pour des jeunes, concernent des jeunes, avec déjà une expérience professionnelle, donc une à deux années d'expérience professionnelle, et au plus 10 années d'expérience professionnelle, qui concerne de l'ordre de 75% des recrutements. Donc c'est important. Il va falloir que les recruteurs élargissent leur champ du possible, donc en prenant des jeunes peut-être qui n'ont pas cette première expérience professionnelle.
Sachant que les tendances, c'est quand même que le CV, ça compte de moins en moins.
Oui,
et que il y a beaucoup de boîtes qui ont même du mal à définir les profils qu'elles recherchent, parce qu'on veut des profils de plus en plus atypiques. On veut des gens qui ont appris à apprendre, en fait, et pas des gens qui arrivent avec une qualification comme ça.
Tout à fait.
Comme le dit Emmanuel.
On casse les codes. Ouais. Il y a des seniors également qui ont déjà une expérience professionnelle qui peuvent tout à fait correspondre aux besoins des PME, qui n'ont pas forcément une capacité d'encadrement toujours, en tout cas les très petites entreprises. Donc ce spectre doit s'élargir.
Bon, on va continuer justement la baisse du chômage. Est-ce que ça va s'accompagner ou pas de hausse des salaires, hein? Voilà, ça peut gronder quelque part. Et puis après l'effort quelque part, le réconfort, hein. Et puis concurrence hein, entre boîtes, et puis concurrence internationale. Faut garder, faut attirer, faut séduire. À tout de suite avec les décodeurs de l'écho sur BFM Business.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Oui, le taux de chômage qui repasse en France sous les 9% au quatrième trimestre, hein, selon l'INSEE, chiffre trimestriel désormais, en tenant compte évidemment désormais du comptage à la sauce du Bureau international du travail, et en faisant abstraction finalement des chiffres mensuels de Pôle emploi. Alors, c'est une bonne nouvelle, on va voir si ça se poursuit justement, bien entendu. Tiens, qui doit-on remercier à votre avis Parce que là, on a Stéphane Le Foll qui a dégainé assez rapidement ce matin. Vous vous souvenez, l'ancien ministre de l'Agriculture, très proche de Hollande, qui dit « Merci aux décisions qui ont été prises sous le quinquennat de François Hollande ». Bon, très bien. Bruno Le Maire, il est très prudent, hein, Bruno Le Maire. Hein. Il se donne 2 ans pour juger les résultats de la politique économique, malgré le net recul du taux de chômage à la fin de l'année dernière.
Et puis c'est Christine Lagarde, de passage à Paris aujourd'hui, la directrice générale du FMI, qui salue la qualité, l'ambition des réformes engagées en France. Elle était avec Bruno Le Maire. Oui, tiens, qui on doit remercier? Gilles Lecointre avec nous, auteur de Théorie générale du capital, de la croissance et de l'emploi.
Personne, nous tous en gros, parce qu'il n'y a pas de réformes majeures qui ont changé les choses, ni celle de Hollande, ni celle de Macron, qui ne peuvent pas encore avoir d'effet. Donc ça, c'est un...
Combien de temps les effets des réformes
Macron? De lui-même être prudent, l'économie c'est quelque chose de lent. On oublie toujours ça, l'économie marche sur un cycle lent. Or, on parle toujours de très court terme, qu'on ne peut pas voir très bien à court terme. Donc, il ne faut pas oublier non plus qu'on est porté par une croissance internationale. On a l'air de dire qu'on a tout fait pour... Non, il y a une croissance internationale qui supporte l'emploi. Mais ce qui est le plus important, à mon avis, c'est qu'est-ce qui crée les emplois et pourquoi on les crée. J'ai montré sur 30 ans de statistiques qu'il y a eu 3 millions de créations d'emplois en France entre 1980 et 2010. Sur ces 3 millions de créations d'emplois, elles sont faites à 100% par des PME, TPE, ETI. Les grandes entreprises, pendant ce temps-là, ont détruit 600 000 emplois. Donc il faut arrêter de penser... Moi, je trouve que les grandes entreprises ont tout à fait leur place dans une économie moderne. Mais il faut essayer de regarder où sont les problèmes. Et pourquoi on crée... Alors, une fois qu'on a dit qui crée l'emploi, c'est-à-dire les PME, les TPE et les ETI, pourquoi crée-t-on de l'emploi ? Parce qu'on veut faire de la croissance et parce qu'on a de l'innovation. Et je vais vous donner un exemple tout simple, et j'arrêterai là-dessus, quand vous disiez, y a-t-il des limites à la création d'emplois? Il y a un exemple merveilleux qui parle aux Français, c'est l'agriculture. On a le meilleur, j'allais dire, capital immatériel en matière agricole. On sait tout faire en agriculture, en agroalimentaire. On s'est fourvoyé pendant des dizaines d'années sur une agriculture intensive et productiviste, dont on démontre aujourd'hui scientifiquement qu'elle n'est pas la plus productive. C'est-à-dire que la culture bio sur des petits espaces avec des multiples espèces, elle est plus productive que la culture. On peut créer des centaines de milliers d'emplois. Et on a, du point de vue marketing, tous les atouts pour vendre nos produits français agricoles à l'extérieur. Et on va faire des marges. Les agriculteurs vont enfin pouvoir gagner leur vie par eux-mêmes. D'ailleurs, je crois que le président Macron a commencé à le faire. Et c'est un gisement d'emplois considérable. Donc on a des exemples à nos portes pour créer des emplois et sur des segments qu'on connaît très bien en France.
Emmanuel Le Chip, où est-ce qu'on crée, où est-ce qu'on embauche en France justement, il y a quand même des, voilà, même géographiquement, des régions qui s'en sortent mieux que l'autre également. Il y a des secteurs qui détruisent des emplois, mais on en voit se créer ailleurs.
Bah, là, ce qu'on a vu, c'est effectivement en partie une reprise de l'emploi qui est portée par un secteur qui, lui, est très riche en personnel, entre guillemets. C'est le secteur de la construction, hein, qui recrée des emplois pour la première fois depuis 2008. Mais vous avez l'essentiel des créations d'emplois qui vient des
services
marchands.
Bien sûr.
Une des raisons pour lesquelles la productivité est si faible, etc., c'est qu'on voit qu'on crée quand même, mine de rien, beaucoup d'emplois dans les services et peu qualifiés, en fait. Donc, on ne crée pas que des emplois qualifiés. Et puis, je voudrais quand même souligner un point sur cette tarte à la crème de la formation qu'on a évoquée, parce qu'on dit pas assez qualifiés. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, la France est le pays dans lequel l'inadéquation entre votre qualification, votre diplôme et votre métier est la plus grande. Dans toute l'Europe, il n'y a pas un pays dans lequel cette inadéquation est plus forte. Et aux deux tiers, l'inadéquation, elle vient de la surqualification. C'est-à-dire de gens qui sont trop qualifiés par rapport au métier qu'ils exercent. Alors avec tous les effets de report que ça a sur les moins diplômés, puisqu'évidemment, quand vous avez des diplômés qui occupent des postes moyennement qualifiés, inutile de vous dire que pour les moyennement qualifiés ou pas qualifiés, c'est très dur de rentrer sur le marché du travail. Mais attention à cette tarte à la crème de la formation qu'on nous présente comme étant le remède miracle. Formation, ça veut dire aussi adéquation offre-demande et pas forcément toujours beaucoup plus de compétences, de diplômes, etc.
Et quel profil qualitatif justement Aymeric Le Châtelier, vice-président d'Ipsen, laboratoire pharmaceutique, vous disiez sous les 2 milliards, mais en route vers les 2 milliards et demi en 2020, voilà, avec des années exceptionnelles qui se profilent, c'est ce que vous expliquez ce matin au moment de vos résultats, croissance de la division de médecine de spécialité. Oui, ce que fait Ipsen, le somatulin, par exemple, les tumeurs neuro-endocrines, puis des médicaments pour la famille, le Smecta, que tout le monde connaît, voilà, c'est lui, c'est Ipsen. Allez-y donc, pour enchaîner sur ce que disait Emmanuel Le Chip.
Je voulais enchaîner un petit peu sur l'innovation. Je crois que c'est absolument essentiel chez nous. Tout part effectivement de l'innovation et des centres de décision. Parce que je crois qu'il y a effectivement beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de choses qui se transforment. Vous donnez l'exemple de la somatulin, qui est notre principal produit chez Ipsen. Et j'espère qu'Ipsen, on n'est pas dans les grands groupes qui détruisent de l'emploi et qu'on est dans ces ETI et ces sociétés qui effectivement ont une origine familiale. Ipsen est encore un groupe qui est contrôlé par une famille et qui est devenu aujourd'hui effectivement à la fois un groupe mondial et à la fois un groupe qui, avec un produit comme la Somatuline, un produit qui a été découvert en France, découvert par des chercheurs en France, qui est produit en France et qu'on vend partout dans le monde. Et on vend partout dans le monde parce que les patients, à partir du moment où on a un médicament qui fonctionne, c'est partout dans le monde. Et ce produit aujourd'hui, il est à l'origine de centres de recherche. On a un gros centre de recherche, plus de 200 personnes autour de Paris qui travaillent là-dessus. Et je crois qu'effectivement, nos métiers, pour nous, ce qui est absolument fondamental, c'est de continuer à investir dans l'innovation. Et à partir du moment où on investit dans l'innovation, ben, on va créer effectivement de l'emploi derrière. On va permettre qu'une entreprise française, effectivement, puisse se développer. On est aujourd'hui une entreprise qui fait plus d'un milliard de chiffre d'affaires en oncologie, dans le traitement des cancers divers et variés, où il y a énormément de concurrence. Donc moi, je crois beaucoup, effectivement, à le climat de confiance qui permet aujourd'hui et qui permet derrière d'investir dans l'innovation, d'investir dans de la croissance qui, elle-même, va créer de l'emploi.
Jean-Marie Marx, directeur général de l'APEC.
Alors, c'est vrai qu'il y a une bonne nouvelle. Ce sont les créations d'emplois. Et l'évolution donc des recrutements, mais il y a une mauvaise, ce sont les tensions sur le marché du travail. Et on ne peut que constater aujourd'hui que
le marché de l'emploi des cadres est sous tension.
Pas uniquement des cadres, les délais de recrutement donc augmentent. Pour les cadres, c'est 2 à 3 mois. Le nombre de candidatures sur les postes diminue. Il y a quelques années, pour les cadres, c'était 50 candidats sur les offres déposées sur notre site apec.fr, qui représente à peu près la moitié du marché cadre. Elles sont aujourd'hui à 25 ou 30. Mais ce qui veut dire que dans certains bassins d'emploi, sur certaines fonctions, on est sur quelques postes, en tout cas en dessous des doigts d'une main. Et puis globalement, le sentiment des entreprises, c'est celui de difficultés de recrutement, puisque 2/3 d'entre elles, et puis au premier chef, bien sûr les PME, déclarent avoir des difficultés de recrutement. Donc j'allais dire, sur ce que disait Emmanuel Lechiffre, le sujet de la formation, le sujet ce n'est pas la course à la surqualification, je suis entièrement d'accord. Par contre, il y a des problèmes de compétences qui se posent, et à tous les niveaux de qualification, parce qu'il y a des emplois de premier niveau de qualification, qui sont aujourd'hui également touchés dans tout le secteur des services par le digital, par l'automatisation de process dans l'industrie notamment. Et donc, il faut développer effectivement ces compétences à tous les niveaux.
Luc Berry, secrétaire général de l'UNSA, les recruteurs, comment est-ce qu'ils doivent se comporter, s'adapter face à cette situation ?
Je crois qu'il y a plusieurs éléments qui ont été abordés ici. Moi, je ne pense pas que effectivement les questions de formation soient simplement une tarte à la crème. Si on prend uniquement d'un point de vue quantitatif, enfin, si la formation était un problème quantitatif, ça fait longtemps qu'on l'aurait réglé. Bon, donc c'est pas vraiment le sujet. Enfin, il faut évidemment y mettre de l'argent, etc. Mais et peut-être plus parfois. Mais le vrai sujet, c'est le contenu, l'orientation. C'est ça le vrai sujet. Et comment est-ce qu'on peut suivre effectivement des montées en compétences ou des transferts de compétences? Parce que dans les mouvements d'emploi qu'on décrit ici, il y a dans le processus de création et de destruction, il y a aussi des métiers qui valsent, des nouvelles apparition de qualifications qui sont nécessaires. Et moi, ce qui me soucie, comme syndicaliste, c'est très souvent, quand on accompagne des salariés, c'est des situations dans lesquelles, quand on perd son emploi, la capacité à en retrouver un autre est liée à une capacité à se requalifier, etc., etc. Donc, les questions d'enjeux sont, sur un plan économique comme sur un plan social, enfin, les questions de formation, pardon, sont de vrais enjeux économiques comme sociaux. Donc, il faut les traiter pas simplement par l'aspect quantitatif, mais fondamentalement sur l'aspect qualitatif. Et moi, je milite depuis bien longtemps avec l'UNSA sur un aspect qui est fondamental, d'ailleurs, qui est celui de ce que j'appelle l'accompagnement. L'accompagnement des entreprises, l'accompagnement des demandeurs d'emploi, l'accompagnement des jeunes. On est en train de discuter en ce moment avec les partenaires sociaux et le gouvernement de mesures concernant la formation professionnelle, le développement de l'apprentissage, etc. On parle aussi en ce moment de l'avenir de l'assurance chômage. Mais le point commun à ces trois sujets-là, c'est bien la question de l'accompagnement. Comment est-ce qu'on peut accompagner davantage des demandeurs d'emploi vers l'emploi? Comment est-ce qu'on peut accompagner les chefs d'entreprise qui ont besoin de recruter, etc., etc. Et ça, c'est un élément qui est déterminant. Alors, il y faut de l'argent, évidemment. Ça, c'est une question de ciblage. Qu'est-ce qu'on cible? On peut avoir les meilleurs dispositifs. Si ces dispositifs, les personnes auxquelles ils s'adressent ne s'en emparent pas, ça ne sert à pas à grand-chose. Bon, et c'est un peu toujours autour de ça qu'on tourne dans ces domaines-là, la capacité à un moment donné à créer des dispositifs dont on se soucie de la façon dont les gens vont s'en emparer et vont véritablement les accompagner. Et ça me paraît un élément fondamental, y compris pour aborder les questions structurelles.
On parlait tout à l'heure de pénurie dans certains métiers. Il y a un impact vraiment des besoins en main-d'œuvre non satisfaite? Est-ce que ça fait peser ce que ça pèse sur la croissance économique, est-ce que ça freine l'activité des entreprises, Emmanuel Le Chypre?
Bah, c'est ce qu'elles disent en tout cas, puisque quand vous regardez par exemple l'enquête qui a été faite par BPI, vous avez 83% des PME ETI qui vous disent qu'elles ont des difficultés pour recruter, et vous en avez à peu près 45%, quasiment une moitié qui vous dit que concrètement, ça perturbe l'activité de l'entreprise. Alors, c'est pas autant qu'en Allemagne où on est sur des chiffres encore plus élevés, mais oui, c'est vrai que clairement, il y a des difficultés de recrutement. Alors, on est à ce niveau où effectivement, on parlait du taux de chômage structurel tout à l'heure. On est à ce niveau où on voit qu'il y a des pénuries de main d'œuvre comme il y en a rarement eu en France, et qu'en même temps, du côté des salaires, il se passe encore rien.
Voilà. Émeric Le Châtelier, Ipsen.
Un commentaire, je crois. Ce qui est important, c'est qu'on mesure pas complètement, pour moi, le changement de notre société aussi. Le changement, le digital, je crois qu'il change beaucoup. Et il y a un certain nombre de métiers, on parle de former. Et aussi, les nouvelles générations qui recherchent pas la même chose. Et je crois qu'aujourd'hui, et nous, dans notre industrie, on est dans un monde où on a à la fois des géants, à la fois des entreprises de taille moyenne, et à la fois énormément de biotech. Et aujourd'hui, notre difficulté, nous, c'est trouver les personnes qui vont retrouver un sens à leur vie, un sens à ce qu'ils veulent retrouver en entreprise. Et effectivement, si vous nous interrogez très très souvent, on va répondre à ces questionnaires en disant oui, on a du mal à recruter. Oui, on a du mal à recruter parce qu'on a du mal à trouver l'adéquation. Parce que d'abord, on n'est jamais complètement satisfait de ce qu'on va trouver. Mais je crois qu'il y a une vraie mutation, à la fois à travers le digital, à travers ce que recherchent les candidats, les gens, la taille des entreprises aussi, qui est un enjeu fondamental.
Gilles Lecointre.
Une chose très simple, à la racine du mal de la formation, il y a l'éducation tout simplement. Et Macron en a fait une priorité, c'est majeur. On a une éducation beaucoup trop tournée vers la reproduction du système et pas assez vers la créativité. Ce qui porte l'emploi, c'est l'innovation. L'innovation, elle est portée par la créativité disruptive. Donc il faut pousser les enfants à faire ça. C'est fondamental. C'est ce que vous faites dans votre groupe, dont j'ai noté qu'il était familial. Donc ça, c'est une variable très importante.
Tiens, le défi ETI, ne loupez pas chaque week-end sur BFM Business. Voilà, puisqu'on parlait des ETI, ça a repris la semaine dernière. Au final, baisse du chômage, est-ce que les salaires vont suivre? Est-ce que les entreprises sont décidées à jouer sur les rémunérations pour les attirer? Petit tour de table. Allez, Jean-Marie Marx, l'APEC.
Je l'ai dit tout à l'heure, pour l'instant, on ne peut que constater qu'il n'y a pas ce mouvement en cours. Mmh. Voilà, mis à part certains métiers, certaines fonctions dans lesquelles il y a une augmentation, mais ce n'est pas un mouvement général à ce stade.
Quel message vous voulez entendre, vous, Luc Berry, le syndicaliste, l'UNSA?
Moi, au niveau de l'UNSA, nous, notre priorité reste la question de l'emploi, parce qu'on n'est pas sorti de l'auberge, malgré les excellents chiffres, on peut tous s'en réjouir, mais enfin, on n'est vraiment pas sorti quand même de l'auberge, donc il faut continuer ce travail. Après, les questions salariales deviennent effectivement prégnantes dans des secteurs où effectivement il y a une tension, et à un moment donné, vous savez, sur le marché du travail, c'est la loi de l'offre et la demande. Quand il y a beaucoup d'offres, parce qu'il y a beaucoup de chômeurs, c'est plutôt à la baisse. Oui. Et quand on a besoin de gens, à un moment donné, il faut les payer pour les trouver, il faut les attirer. Voilà. Ça, c'est la simple règle du marché. Il y a aussi une autre donnée que moi je mets en avant, qui est la capacité quand même à ce que les gens trouvent aussi dans leur travail des moyens de vivre décemment, etc., etc. Ça fait partie du sujet. Mais si vous regardez par exemple en Allemagne aujourd'hui, les mouvements revendicatifs qui partent sur les questions salariales sont concentrés dans les secteurs d'activité économique particulièrement florissants.
Émeric Le Châtelier.
Moi, je crois que depuis de nombreuses années, on est à des niveaux de salaire très, 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 très faibles, de par le contexte économique. Et effectivement, quand aujourd'hui, il faut distribuer dans une entreprise de croissance comme nous 2,5, 2,6% d'augmentation de salaire, est-ce que ça fait vraiment la différence pour attirer les bons candidats, pour motiver les gens, pour venir? C'est un vrai problème. Donc aujourd'hui, si effectivement, on arrive à rentrer dans une spirale différente, avec effectivement un peu plus d'inflation, un peu plus de salaire, un peu moins de chômage, je pense qu'on arrivera à réconcilier à un moment donné motivation, pouvoir d'achat, reconnaissance aussi vis-à-vis des gens. Et moi aujourd'hui, personnellement, lorsque je dois donner à quelqu'un en lui disant parce que tu as 2,2%, parce que je suis très content de ce que tu as fait.
Moins faible, mais ça reste faible. Allez, un mot chacun, vous terminez. Gilles Lecointre.
Moi, simplement, je dirais que le salaire, pour moi, n'est pas l'enjeu majeur, parce que ça se régule par le marché quand il y a des tensions, parce que le salaire des jeunes qualifiés n'est pas si bas que ça. La priorité, c'est d'éradiquer le chômage. C'est ça le sujet fondamental.
Emmanuel ?
Bon, ça va continuer à aller bien pour les salariés en CDI protégés, qui eux vont avoir des augmentations. Pour les autres, ça va rester encore un peu compliqué.
Merci à tous. Jean-Marie Marx est avec nous, directeur général de l'APEC. Émeric Le Châtelier, vice-président du laboratoire d'Ipsen. Ipsen, très heureux donc à l'issue des résultats 2017 et avant une année exceptionnelle, c'est vous qui le disiez donc en 2018. Gilles Lecointe, théorie générale du capital, de la croissance et de l'emploi. Emmanuel Le Chip, ne loupez pas la librairie de l'écho ce week-end sur BFM Business. Et Luc Berry, secrétaire général de l'UNSA, les décodeurs de l'écho qui reviendront très très vite, bien sûr.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.